j'aimerais partager avec vous, j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Mais aussi ce chagrin peut disparaître. C'est le témoignage d'un homme. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 9e, partir du verset 1er. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Vous avez saisi que c'est l'apôtre Paul qui, avant d'être l'apôtre, était Saul de Tarse et appartenait à ses frères, ses parents, selon la chair, avec de tels privilèges que nous avons lus au verset 4e et 5e. Et le jour où le Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas, cette vision l'a bouleversé, arrivant à dire « Qui es-tu, Seigneur ?» Et à cette parole, Jésus lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes, et qu'attends-tu de moi ?» Avec cette vision, cet homme fut bouleversé et il a dû rentrer dans la pleine grâce, dans la pleine bénédiction du Seigneur. De longues années après, Paul écrivant aux Romains, il prend trois témoins à partie. Il dit « Je dis la vérité en Christ, et je ne mens point. » Non seulement il l'a prononcé, il l'a pensé, et ensuite il l'a écrit. « Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Dieu est pris à témoin. Christ est pris à témoin, la conscience de Paul et le Saint-Esprit se révèlent, et ce qu'il dit, j'éprouve une grande tristesse. Cette tristesse, elle était intérieure, et l'apôtre va donc révéler pourquoi cette tristesse. Et pourquoi, dans son cœur, un chagrin continuel? Non point quelque chose de superficiel, mais quelque chose qui ne le quitte point. à cause de ses frères, à cause de ses parents qui ne ont point accepté son témoignage, n'ont point accepté sa foi, n'ont point accepté ce qu'il est devenu par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Partir de là, l'apôtre Paul est un homme qui est rejeté, qui est banni par la famille. Nous avons pu avoir quelques tensions lors de notre conversion avec notre famille, avec nos frères et sœurs qui n'ont point compris le changement de vie, qui n'ont point accepté notre changement de vie, qui n'ont point accepté notre nouvelle manière de vivre notre foi. Lorsque, ici, dans cette maison de prière, nous avons eu plusieurs jeunes femmes qui se sont converties à Jésus-Christ et qui, autrefois, étaient de cette foi musulmane. Et quand elles se sont converties à Christ, je me souviens de ces sœurs, quand elles appelaient chez elles et que c'était le papa qui répondait, il n'y avait aucune communication avec, mais simplement la maman. C'est terrible lorsque l'on est rejeté. J'ai vu dans certaines missions, dans bien des endroits du monde, des hommes, des femmes se convertir à Jésus-Christ. On les a frappés, on les a privés de nourriture et de sommeil pendant un temps, jusqu'à ce qu'ils renient leur foi. Mais Dieu soit béni, ils n'ont pas renié ni leur foi en Jésus-Christ, ils sont restés fidèles, la grâce de Dieu les a soutenus. Paul dit, eh bien, je ne mens point, je dis la vérité devant en Christ, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. À cause de ses frères, à cause de ses parents, elle dit « Je voudrais moi-même être séparé de Christ ». C'était le même cas pour Moïse, qui, pour son peuple, aurait voulu aussi, en réalité, aller loin de Dieu pour que Dieu ne rejette pas son peuple. Il y avait un amour merveilleux, extraordinaire. De la même manière, nous qui vivons avec Christ, nous avons un fardeau sur notre cœur pour nos familles. Nous avons un fardeau pour celles et ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il a prié pour la conversion, bien sûr avec toute sa famille, mais lui il a pris part, il est beaucoup plus jeune, mais il dit on a prié 50 ans pour notre père. 50 ans pour notre père, c'est long 50 ans, un demi-siècle pour la repentance et la conversion d'un mari, d'un papa. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Pourquoi parfois nos prières ne sont point exaucées? Parce qu'il nous manque très souvent de la persévérance. Nous arrêtons de prier. Mais Paul nous montre que son chagrin continuel, sa grande tristesse, le poussait à intercéder au trône de la grâce de Dieu. Ne nous décourageons jamais, bien-aimés, dans la foi. Les uns les autres, nous avons le fardeau de voir nos familles se repentir, de voir nos familles se convertir et de voir le Seigneur agir dans les cœurs. Il y a ce chagrin intérieur. Il y a cette tristesse aussi à l'intérieur. C'est quelque chose de continuelle. Ne désespérons point pour nos enfants. Ce matin, je disais lors du culte qu'à une période, nous avons eu un rassemblement et je n'ai jamais oublié et je n'oublierai jamais cette soirée où j'ai vu tous ces visages. Mais quelle responsabilité en voyant ces jeunes qui étaient des adultes et qui sont des adultes. Pourquoi ? Et m'approchant d'eux, pourquoi vous vous êtes éloignés du Seigneur ? Est-ce que vous avez été blessés par l'Église ? Est-ce que l'Église vous a fait du mal ? Est-ce que nous nous sommes mal comportés ? Et les uns après les autres que je questionnais disaient « Non, l'Église ne nous a pas blessés. Nous n'avons point reçu de blessure à l'intérieur de l'Église. » Et les parents avec le fardeau prient toujours. Et un couple me disait, plutôt une sœur me disait hier matin, ce témoignage, elle disait, c'est pour vous encourager, pour nous encourager aussi. Et elle disait, telle personne de ma famille, eh bien voici ce qu'ils ont fait. Oh, cela réjouit mon cœur. Cela réjouit mon cœur parce que des hommes, des femmes qui ont connu l'Évangile s'approchent néanmoins de Dieu. Parce que nous avons un fardeau. Parce que nous avons ce chagrin continuel. Parce que nous savons ce que c'est qu'une vie sans Dieu. Une vie sans Christ. Une vie sans espérance. Nous savons aussi que s'ils ne se tournent pas vers Christ, ils sont sur le chemin de l'enfer. Et le chemin de l'enfer, c'est une réalité. L'enfer est une réalité. C'est un lieu de tourment, un lieu de désarroi, un lieu où on entre et on n'en ressortira que pour le jugement dernier, pour être dans les tourments éternels, loin de Dieu. Oh, que Dieu nous fasse grâce! Que Dieu exauce notre prière et ce fardeau qui est à l'intérieur de notre cœur, que le Seigneur nous fasse grâce. Et il nous fait grâce, qu'il vous délivre, qu'il vous bénisse et qu'il le fasse pour nous aussi dans le nom précieux de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Je ne sais quel fardeau vous pouvez avoir. L'apôtre Paul dit « C'est mon fardeau, mon chagrin continuel, mais Dieu a fait grâce d'une manière toute particulière. » Parfois, nous le savons qu'un jour, l'épreuve nous frappera. Nous sommes sur le chemin qu'un jour, ça viendra malheureusement nous frapper. Vous vous souvenez de cette femme de Naïm, cette femme qui était veuve, elle avait perdu son mari. Et cette femme, elle pleurait, je ne sais combien de temps après, elle perd son fils unique. C'est terrible lorsque vous n'avez plus personne, ni mari, ni fils unique. Vous êtes là dans un grand désarroi. Je me souviens d'une femme qui est venue à la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je me souviens, elle est là la première fois où elle vient. Pendant le culte, l'adoration, elle pleure à sanglots. Elle est déjà d'un certain âge. Et puis, lui rendant visite, parce qu'une chrétienne lui avait rendu témoignage. Et en parlant avec elle, elle dit, voyez-vous, les deux êtres chers sont là en photo, mon mari et mon fils. Ils sont décédés l'un et l'autre, et je ne cesse de pleurer. Et dans la nuit, je me lève et je pleure. C'est quelque chose de terrible. Et cette femme, elle vient de perdre son fils unique. Et la Bible nous montre qu'elle portait en terre son fils unique. Il y avait beaucoup de personnes qui l'entouraient. C'est vrai que c'est important d'être soutenu lorsque l'on conduit un être cher à sa dernière demeure terrestre en attendant la résurrection d'entre les morts. Mais lorsque le service est fini, chacun rentre et reprend la vie, mais on reste avec son désarroi. Il y a ce cortège de la mort qui est là. Et chers amis, je ne sais ce que vous pouvez ressentir. Peut-être aussi dans ce cortège de la vie, il y a au sein, tout nous parle de mort. Tout nous parle de mort, mais tout nous parle aussi de vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre cortège qui va rentrer dans la ville de Naïm. C'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Il rentre avec ses hommes, avec ses disciples, avec ses apôtres. Et le cortège de la vie va faire arrêter le cortège de la mort. Et le cortège de la mort va s'arrêter. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui, va être ému de compassion. C'est quelque chose qui le bouleverse. Quelque chose qui le remue intérieurement, et il est ému pour elle, cette femme. Et Jésus va lui dire, « Femme, ne pleure pas, ne pleure pas. » Quelle grâce de savoir que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, celui qui a été conçu par l'Esprit-Saint, dans le sein de Marie la Vierge, n'est pas quelqu'un qui est déshumanisé. Il y a de la compassion, il y a des sentiments. Il s'approche de cette femme, elle lui donne une parole formidable. Ne pleure pas. Nous sommes dans un monde où nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu, d'entendre la parole de Christ, qui nous dit ne pleure pas, que tes larmes soient séchées, ne pleure pas. Et il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui portaient s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et la Bible dit, Jésus le rendit à sa mère. Il le rendit à sa mère. Tant de choses. Maman, père, nous ont été prises. Et nous sommes là, parfois, devant des êtres vivants. Mais ils sont là comme morts. Il faut que Jésus arrête ce cortège de la mort dans lequel nous sommes et dans lequel nous vivons. Il faut qu'il y ait le cortège de la vie qui touche les cœurs, qui puisse parler aux garçons et aux filles, qui puisse parler aux jeunes gens, qui puisse parler aux hommes et aux femmes. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Une parole extraordinaire. Je me souviens, lorsque nous étions au Tchad, c'était au début 70, il y avait un petit bébé de 8 mois qui se prénommait Étienne. Il était là avec nous à l'orphelinat, et puis nous étions en brousse, et comme j'allais partir le soir dans les villages, j'ai dit à mon épouse, ça serait bien que tu ailles chercher le petit Étienne, il était souffrant. Et puis mon épouse est allée le chercher. Il y avait entre notre domicile et l'orphelinat peut-être 25 ou 30 mètres. Et quand mon épouse est arrivée près de moi, elle avait l'enfant qui était dans ses bras. L'enfant était mort. L'enfant était mort. Et nous nous étions attachés à cet enfant pour différentes raisons. Nous nous étions attachés. Il y a l'attachement aussi dans notre cœur. Qu'avons-nous fait ? Nous sommes rentrés dans notre chambre. Nous avons mis ce petit bébé mort sur ce lit. Et avec des frères et des sœurs africains, nous avons crié de tout notre cœur. Le temps ne compte point. Nous avons pris ses petites mains et puis j'ai mis ma main sur son bout. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Il était mort, c'était terminé. Au bout d'un temps, je ne peux pas dire combien de temps, si c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, que nous avons prié, que nous avons crié à Dieu, mais tout à coup, le pouls s'est remis en action. Quelle joie, quelle allégresse! Nous étions heureux. Et vers 4 heures le matin, l'enfant s'est mis à pleurer, et il avait faim, il lui fallait le biberon. C'est Dieu qui fait les miracles. C'est Dieu qui fait des prodiges. C'est Dieu qui est capable de changer les vies. Oui, Dieu est capable de changer le corps d'un homme. Il est capable de changer le corps d'une femme. Il est capable de changer le corps d'un enfant, d'un jeune homme, d'une jeune fille. Tout ce que on nous a pris, Jésus est tout puissant pour nous le rendre. Jésus est la vie. Jésus est la résurrection. Et la Bible nous montre que le chagrin de cette femme s'est arrêté. Je reviens sur cette dame parce que je lui ai parlé de la consolation de Dieu. Je lui ai dit que le Seigneur pouvait la consoler. Et puis nous avons terminé par la prière, demandant à l'Esprit de Dieu de consoler son cœur. Et le matin, elle s'est réveillée vers 6 ou 7 heures et elle était troublée. Elle a dit, mais j'ai pas pleuré. Cette nuit, je ne me suis pas réveillée. Je ne suis pas venue devant la photo de mon mari, devant la photo de mon fils. Elle a dit, mais j'ai une paix qui m'envahit. Je suis folle. Alors qu'a-t-elle fait? Elle est descendue 4 à 4 pour voir sa voisine qui était au rez-de-chaussée. Et elle dit, mais voici ce qu'il m'arrive. Je suis folle, je n'ai pas pleuré, je suis dans la paix. Sa voisine qui connaissait le Seigneur lui a dit, mais c'est Dieu qui vous a fait grâce. C'est le Seigneur qui vous a fait grâce. Elle a donné son cœur au Seigneur et elle fut baptisée par immersion. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu est tout puissant. Ne doutez pas un instant. Ne doutez pas de la puissance de l'Évangile. Ne doutez pas de la puissance de Dieu qui est tout puissant pour intervenir dans votre vie et pour changer votre cœur. Les gens disaient, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cet après-midi, Dieu veut vous visiter votre cœur. Il veut visiter votre vie. Il veut faire quelque chose au plus profond de votre cœur. Il veut que ce chagrin continuel cesse et que vous soyez bénis. Il peut arrêter cette hémorragie de pleurs qu'il ne fait que de couler, que de couler. Dieu est tout puissant. Vous vous souvenez aussi de ce père qui avait un fils, et ce père a découvert un beau matin que son fils avait quelque chose de terrible. Son fils était comme l'a possédé, et tout à coup, il ne parlait point, il était muet, et en quelque lieu qu'il le saisisse, le démon, l'enfant écume, grince des dents, devint tout raide, et j'ai prié tes disciples de le guérir. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Cet homme, quand il s'est approché des disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus avaient reçu de Jésus le pouvoir de guérir les malades, l'autorité sur les mauvais esprits. Les 9 disciples étaient au pied de la montagne. Il y avait les questions théologiques avec les religieux. Mais le Père était dans le désarroi. Jésus et les 3 autres apôtres était sur la montagne de la transfiguration. Ils avaient vécu la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. C'était quelque chose d'extraordinaire. Les neuf étaient là. Jésus, il leur dit, sur quoi discutez-vous? Mais le Père était avec son problème. Il a expliqué son problème. Ils n'ont pas pu. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, c'est pourquoi notre nation est aussi déchristianisée. Pourquoi, selon les sondages, il y a 40% de Français qui se disent athées? Pourquoi un tel déclin? Parce que nous sommes venus peut-être comme ce père devant les représentants de Dieu, et les apôtres c'était les représentants de Jésus. Et nous n'avons point obtenu ce que nous désirions. Nous sommes repartis avec nos problèmes personnels, avec notre culpabilité, avec notre passion, avec notre péché. Un jour, il y avait un homme qui est venu. Et il s'est approché de l'imposition des mains. Il m'a fait part de ce qu'il souhaitait. Nous avons prié pour, dans le nom de Jésus, et il fut guéri par le Seigneur. Il est revenu pour encore pour la prière. Et je me suis dit en moi-même, cet homme, c'est un ecclésiastique. Et nous avons parlé tête à tête. Elle m'a dit, vous comprenez, j'officie dans telle église de l'agglomération nantaise. Je n'ai pas obtenu ce que je souhaitais. Il a fallu que je vienne ici, que vous soyez l'instrument de Dieu pour ma guérison, pour ma délivrance. Vous comprenez pourquoi les églises se vident. Vous comprenez pourquoi la déchristianisation, parce que nous ne répondons plus aux besoins des gens. Nous avons dit aux gens, comme les apôtres, renvoie la foule, renvoie-la vers les campagnes, renvoie-la vers les déserts. Et oui, le désert, c'est lugubre. Nous avons dit aux gens, voilà, vous avez vu, rien ne s'est passé. Mais les médiums, les spirites, les magnétiseurs, toute cette famille occulte, satanique, eux encore font fortune sur le dos de ces gens, les envoûtent par la sorcellerie, les empêchent de vivre, les empêchent de faire ceci et cela. Il faut que les gens quittent les déserts, quittent les campagnes, qu'ils soient libérés de tous leurs problèmes, afin qu'ils reviennent vers Dieu, vers Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Le Seigneur va faire un reproche à ses disciples à cause du manque de foi, à cause de ce qu'ils ont, le pouvoir, l'autorité reçue de Jésus pour guérir. Je lisais un jour ce témoignage d'un enfant qui était dans le train avec sa maman et l'évangéliste parle avec, et la dame, la maman fait part de tout le désarroi de son fils et finit par avouer, par dire que il y avait un fétiche, qu'un médium avait demandé à ce que quelque chose soit mis sur l'enfant. Et le pasteur a dit, mais où est-ce? C'est dans la doublure de la... Il faut retirer tout cela. Et quand la maman a retiré avec crainte C'était marqué dessus que l'enfant était maudit, que là, il y avait une malédiction sur lui. Dieu a délivré. Dieu est celui qui délivre. Il est celui qui est tout puissant. Je me souviens un jour, je faisais une réunion dans une ville. Ça remonte à des décennies. Il y avait cette action de Dieu dans cette réunion. C'était quelque chose d'extraordinaire. Les chants étaient chantés avec enthousiasme. La puissance de Dieu était à l'œuvre. Et nous avions prié pour une femme qui était liée par l'occultisme et qui était là comme étranglée lorsque l'on priait pour elle. Et quand elle est rentrée chez elle, je me souviens plus des circonstances, mais une statue en plâtre est tombée à terre, et juste à la hauteur du cou, il y avait quelque chose qui avait été mis dans cette statue, un objet de malédiction. Cette femme fut entièrement délivrée. Christ est tout puissant. Alors bien sûr, Jésus dit au Père, depuis combien de temps ça se passe que cela lui arrive? Et le Père répondit, depuis son enfance. Il a cet esprit de suicide. Il a ses pensées suicidaires. Depuis son enfance. Depuis son enfance. Je lisais un psychiatre qui disait pourquoi les ados se suicident tant. Il dit parce que arrive un âge de l'adolescence. On les a tellement protégés sous la bulle que quand ils rentrent dans ce monde, ils n'ont point été préparés. Parce que ce monde, c'est le monde de la mort. Les pensées suicidaires, depuis son enfance, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Toutes ces choses. Et le Père va dire, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Et Jésus lui dit, mais si tu peux, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, tu vois mon incrédulité, viens à mon secours, fais-moi sortir de l'incrédulité. Non pas la foi dans la religion, mais la foi dans la personne de Jésus. Non point j'ai confiance en Dieu, ou je suis croyant mais non pratiquant. Je l'étais mais je ne le suis plus. Sors-moi de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Fais-moi rentrer dans le monde de la foi, Seigneur. Cette foi en Jésus qui nous permet de triompher. Viens au secours de mon incrédulité. Non point de ma croyance, mais mon incrédulité. Que rien ne fasse obstacle. Et Jésus est intervenu et a libéré cet enfant et l'a redonné à son père. Ce que Dieu réclame de chacun de nous, c'est la foi en Jésus. La foi dans le ressuscité, la foi qui est dans la gloire éternelle et qui nous a dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute création. Gloire à Dieu. Notre Église est cosmopolite et nous sommes très heureux. Nous avons beaucoup de nationalités au milieu de nous. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et chaque dimanche, la croix, elle nous rassemble autour de la scène. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il est tout puissant, il est merveilleux. Il peut entrer dans votre vie et vous rendre votre fils, votre mari, votre enfant, votre femme. Il peut vous réconcilier dans les familles. Il est tout puissant. Que son nom soit glorifié, adoré à tout jamais. Paul a gardé son chagrin continuel jusqu'à la fin pour sa famille, pour qu'elle accepte Jésus. Mais vous, cet après-midi, le chagrin qui est dans votre cœur peut disparaître. Si vous laissez entrer Jésus dans votre cœur, il peut changer votre cœur, il peut manifester tout son amour, et vous allez changer, parce que Dieu va vous bénir en abondance. Vous allez partir, peut-être, vous allez repartir avec, en chantant, avec Dieu nous ferons des exploits. Qu'est-ce que tu arrives? Avec Dieu je fais un exploit. Peut-être que ce soir, vous allez peut-être débarrasser la table et vous allez chanter, eh bien, en ton nom, Seigneur, tout va changer. Tout va changer. Vous allez commencer demain matin en chantant un vêtement blanc. Je suis purifié. C'est formidable. Et puis vous allez chanter lundi, je suis heureux. Et le mardi, je suis encore plus heureux parce que je viendrai à la réunion de prière à 19h30. Le mercredi soir, je suis heureux. Mais le jeudi, je suis heureux parce que je vais aller à Nouveau Départ, m'occuper des sans-abri. Je suis heureux parce que je vais aller à la réunion des étudiants. Je vais aller à la réunion biblique. Je vais aller ceci. Je vais aller cela. Je parlais avec une jeune fille à l'issue du culte. Et je lui disais, mais comment tu es venue? Elle a dit, je suis venue par Campus Solidaire. L'assistante sociale m'a parlé de Campus Solidaire. Au Crous, c'est bien, je suis venu là, à Campus Solidaire. Ça m'a réjoui, hein. J'ai dit, maintenant, mais tu es vraiment dans l'Église. Notre vie peut changer. Gloire à Dieu. Nos rassemblements est toujours là où Dieu est au milieu de nous. Que son nom soit glorifié. On se lève et on prie le Seigneur. Et